Alors, pour ce jour, nous continuons donc nos séries de prédications sur des thèmes plutôt joyeux, positifs, puisque en fait, c'est des textes qui sont choisis la plupart du temps lors des baptêmes et des mariages et des bénédictions de mariage. Donc, on avait envie, en effet, de réfléchir plutôt sur ces textes, en général assez enthousiasmants, puisque dans ces situations, on cherche des textes qui nous enthousiasment, parce que dans cette période pas très drôle, et puis finalement, l'hiver, c'est assez gris aussi, on avait envie de voir quelle était la bonne nouvelle qui nous est promise à chacun et à chacune dans ces Écritures. Et aujourd'hui, ce commandement, ce qu'on appelle le double commandement d'amour, très connu, aimer Dieu et son prochain. Voici donc ce double commandement tel qu'il est énoncé dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, des versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. C'est Jésus qui a réduit au silence. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et puis, dans l'Évangile de Jean, n'apparaît pas ce double commandement, mais un autre commandement d'amour également. Donc au chapitre 13, les versets 34 et 35, dans l'Évangile de Jean. Et c'est Jésus qui parle à nouveau. « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. » Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le double commandement d'amour. Et en quelque sorte, c'est bien difficile de savoir par où commencer. Et puis, il faut savoir aussi, quand on prêche sur un tel texte, il faut savoir renoncer, parce que je ne vais vraiment pas pouvoir vous dire tout ce matin. Alors, heureusement, déjà, j'ai une petite chance, c'est quand j'ai écrit mon dernier billet pieux pour la lettre de l'étoile, j'avais complètement oublié que je devais prêcher sur ce texte-là. Donc, j'ai déjà dit pas mal de choses dessus. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, ou tout du moins, je vais l'effleurer. Et j'ai trouvé encore autre chose. Et je pense qu'on pourrait prêcher une année, à 3, à 4, à 10 voix, sur ce même texte, car, après tout, il est tellement riche. Donc, ce double commandement d'amour, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien sûr, nos années de catéchisme nous ont appris combien ce commandement était une sorte de fondement de la religion chrétienne, cette religion charitable en réalité. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, eh bien, les chrétiens sont dans le monde ceux qui peuvent également exercer la bonté et tendre à travers de nombreuses associations et fondations, eh bien, aider notre prochain. La charité chrétienne, cela, tout le monde le connaît. Après tout, ce mot de charité, il est très connu, très connoté. Mais il vient justement du mot en grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, du mot agapé, qui signifie amour, et il y a son verbe aimer, qui se construit sur la même racine. Ce mot agapé a donné en latin caritas, qui a fait charité, et ce qui fait que dans la plupart de nos Bibles, des Bibles protestantes et d'ailleurs catholiques, jusque dans les années 60, on lisait charité et non amour. Bon, maintenant, on retrouve de nouveau amour, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension bien plus grande dans ce mot. Et je voudrais d'ailleurs dire que c'est cet amour dont parle Jésus, c'est ce commandement, cette invitation à aimer, va bien au-delà, en réalité, de la morale ou de l'éthique. Et je vais essayer de partager ça avec vous. Bien sûr qu'il y a des conséquences éthiques, mais il ne faut jamais oublier que cet amour que nous sommes appelés à donner, à partager, eh bien, trouve ses racines même dans l'amour de Dieu. Il nous invite ainsi à un dépassement. Et ce que nous disent les évangiles, en dehors de ce commandement, de ce que nous disent la globalité de l'évangile, c'est que la figure de cet amour, de cet agapé, eh bien, c'est le Christ. Il ne faudrait donc pas oublier le cadre dans lequel s'insère ce double commandement. Il faut élargir notre vue pour essayer de comprendre ce qu'est l'amour. L'évangile et même la Bible en général, car le double commandement a été emprunté, puisé dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome et dans le Lévitique. Tu aimeras ton Dieu vient du Deutéronome et ton prochain comme toi-même, le Lévitique. Rien que le fait de les mettre côte à côte et sur le même pied, c'est déjà un élément d'interprétation, une sorte de reprise, de conversation qui continue avec cette Bible hébraïque. Il semble bien que ce double commandement ait été finalement accepté dans le judaïsme à l'époque de Jésus, puisqu'on le voit, suivant les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc ou Luc, ceux qui l'entendent, et même dans Luc, ce n'est pas Jésus qui le prononce, c'est un docteur de la loi, tout le monde se trouve d'accord là-dessus. Je reviendrai d'ailleurs sur ce fait-là. Donc, ce double commandement, pourtant, nous interroge. Et c'est là-dessus que j'aimerais partager avec vous ce matin. Il nous pose même plein de questions. La première, déjà, et peut-être la plus importante, qu'est-ce qu'aimer ? Parce qu'il ne suffit pas de dire « tu aimeras » pour comprendre exactement ce qu'il faut faire. On le sait bien, des fois on aime, on a l'impression de faire un acte d'amour, et puis finalement on tombe complètement à côté, parfois même on fait du mal en faisant un acte que l'on croit un acte d'amour, et puis d'autres fois, c'est même par notre absence même que nous pouvons faire un acte d'amour. Donc on voit que c'est bien compliqué. Qu'est-ce qu'aimer ? Ensuite, qui est Dieu ? Bon, c'est vrai que tout cela est un peu lié. Et puis encore, qui est mon prochain ? Et encore, que peut bien signifier ce « comme soi-même » que l'on a tendance à oublier un peu trop ? Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions ce matin. Alors, qui est Dieu ? Je vais l'aborder, mais de manière très lâche. Et puis, il y aura d'autres occasions d'en parler. D'ailleurs, je suis persuadée qu'à toutes ces questions, il n'y a pas une seule réponse. Et que aimer, cela se décline de manière différente, suivant les occasions, suivant les temps, suivant les personnes, et que nous sommes invités justement à réfléchir, à discerner ce qu'il faut devant chaque situation. Nous sommes loin d'ailleurs d'avoir tous les mêmes positionnements sur ce « aimer ». Et dans le protestantisme, qui reconnaît bien dans ce double commandement l'enseignement principal du Christ, pourtant, malgré ce double commandement, on trouve bien des positions éthiques différentes. On trouve bien des positions face au discours de la société, face aux débats qui traversent nos sociétés différentes. Je en prendrai pour exemple le débat qui a traversé notre Église l'an dernier, puis qui continue à traverser notre Église d'ailleurs, sur la bénédiction des couples de même sexe. Nous nous appuyons tous sur l'amour pour avoir des positions profondément différentes. Alors, il nous faut donc essayer de creuser un peu sur ce qu'est cet amour. Déjà, je voudrais dire que dans la Bible même, il y a du débat. La Bible, ne donne pas une position unique. Vous trouverez peut-être pas le tout et son contraire, mais parfois des choses qui, étonnamment, peuvent sembler s'opposer. Parce que la Bible, c'est pas un code de morale. La Bible, au contraire, nous invite à nous positionner, nous, face aux situations auxquelles aux situations que nous devons affronter. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important. Je dirais même que ce débat, ou plutôt cette conversation, parce qu'il y a quand même un certain respect entre les différentes positions, cette conversation, j'aime bien ce mot de conversation, est en lui-même, en elle-même, une preuve en quelque sorte de ce que peut être l'amour. Être capable de converser, de dialoguer, mais de dialoguer de manière positive, non pas ces débats médiatiques où on doit absolument s'affronter. Bien au contraire, essayer d'avancer ensemble et de trouver peut-être pas la même position, mais en tout cas un terrain sur lequel on peut continuer à avancer. Et c'est cela que nous propose le texte biblique. Et cela déjà nous dit quelque chose sur ce qu'est aimer. Aimer, c'est peut-être avant tout respecter, accepter l'autre tel qu'il est, avec ses différences. Donc cette culture de la conversation, au cœur même de la Bible, eh bien, nous invite à creuser un peu. D'ailleurs, ce double commandement d'amour, comme je vous l'ai dit, est présent dans les trois évangiles, mais de manière un peu différente. Il est toujours intéressant de faire des études comparatives, alors je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Si vous avez l'occasion, regardez un peu les différences qu'il y a entre Matthieu, Marc et Luc. Mais je travaillerai plutôt ce matin sur les concordances. Il y a des différences, et dans ces différences, eh bien, on peut trouver en effet des espaces pour interpréter un peu différemment. Donc, je voudrais quand même aujourd'hui partager avec vous ce qui est en réalité ce qui rapproche ces trois versions. Dans les trois évangiles, donc, on trouve ce « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Je raccourcis un peu. Donc, dans les trois évangiles, c'est tout de même assez étonnant, c'est que cette phrase, ce double commandement, intervient dans un contexte de controverse. Je dirais même un contexte où on cherche à piéger Jésus. Quand même, moi je trouve ça assez étonnant d'entendre cette parole qui nous invite à aimer, dans un contexte où finalement on cherche à nous piéger. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce contexte est tellement important que même si Luc est profondément différent, il le met aussi dans ce contexte. L'on cherche à piéger Jésus. Et il va s'en sortir, bon, comme d'habitude, parce qu'il a non seulement ce cœur, cet amour, mais il a aussi cette intelligence, qu'il énonce d'ailleurs dans le double commandement, cette intelligence qui permet de discerner et de ne pas forcément affronter. Et il nous dit, en fait, le contexte, que, aimer, nous sommes appelés à aimer Dieu et notre prochain. Si nous nous tenons à ça, peut-être que c'est l'arme absolue contre la violence. Alors évidemment, si on regarde notre monde, on se dit qu'on n'est pas très doué pour l'amour. Mais peut-être que, nous ne devons pas baisser les bras et continuer à essayer d'aimer. C'est pas forcément faire des grandes choses, aimer. Ça peut être des toutes petites choses. Et une toute petite chose plus une toute petite chose, il peut y avoir ce qu'on appelle une sorte de saut quantitatif et devenir quelque chose de merveilleux. Ne jamais croire que tout est perdu, que tout est foutu. Même lorsqu'on nous attaque et même lorsqu'on se sent faible, nous sommes appelés, invités à aimer Dieu et notre prochain. Et c'est-à-dire également ne pas se décourager. Mais il y a autre chose que l'on peut entendre dans ce « aimer Dieu et son prochain » dans ce contexte de controverse. Ce qui est quand même étonnant, et je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est que Jésus, comme ceux qui cherchent à le piéger, sont d'accord. Chez Marc, allez voir chez Marc, non seulement Jésus l'énonce, mais le scribe qui lui a posé les questions le reprend, et Jésus après le félicite. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument, c'est unique dans les évangiles. Jésus félicitant un scribe parce qu'il a bien parlé. Cela nous dit aussi que aimer n'est pas un savoir. On peut connaître ses commandements par cœur, les 10 commandements, celui-là, tous. On peut les connaître, on peut savoir. Mais aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est mettre en action, mettre en pratique. C'est être capable de faire que les choses puissent changer. C'est cela, aimer. C'est pas raconter par cœur son catéchisme. Et puis après tout, je dirais même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent rien à cette histoire d'aimer son prochain comme soi-même. Et pourtant, ils savent aimer. C'est parce que les petites choses qu'ils font, peuvent changer notre monde. Alors, aimer, c'est pas une loi en réalité. Aimer, c'est bien autre chose qu'une loi, qu'une morale, qu'une éthique. C'est une attitude. C'est quelque chose qui va nous changer et changer les autres. Et je pense que C'est pour cela qu'il faut se méfier. Se méfier de ce que l'on croit acquis. Et au contraire, nous laisser ouverts pour accueillir l'inattendu, parce que l'acte d'amour est toujours inattendu. Alors, autre chose aussi que je voudrais, en élargissant justement sur la globalité de l'Évangile, parce que, j'en suis persuadée, on le dit, et je crois, Jésus est la figure de l'amour. Alors, je suis toujours étonnée parce que justement, dans les préparations aux bénédictions de mariage ou parfois de baptême, je fais lire un évangile. Et les jeunes mariés reviennent toujours en me disant « Ah ben Jésus, il n'est pas vraiment sympa, il est même dur, et je ne comprends pas ces paroles qui parfois sont violentes, virulentes. » Eh bien oui, Jésus, la figure de l'amour, sait aussi être d'une exigence extrême qui fait que son amour peut paraître comme étant quelque chose de violent, de dérangeant en tout cas. Alors oui, il est capable de compassion extrême pour les petits, mais aussi pour ceux qu'on rejette. C'est assez inattendu que Jésus se mette à parler et même à aimer les péagers, c'est-à-dire ceux qui sont là pour taxer les gens de Judée et qui sont détestés par tout le monde, qui sont d'ailleurs des sortes de collabos, et qu'il aime les prostituées, il aime les gens vraiment qui sont rejetés. Et puis ça, c'est parfois difficile à comprendre. Et alors évidemment qu'il aime et qu'il guérisse, parce que dans ses actes de guérison, il y a de l'amour, les aveugles, les boiteux, tout ça, ça on peut le comprendre, mais qu'il aime des gens qui sont complètement, comme on dirait aujourd'hui, borderline, cela peut étonner. Mais pourtant, on l'entend, il aime tout le monde, mais avec ses disciples, avec ses proches, avec ceux justement qui sont tout près de lui, qu'est-ce qu'il fait? Sa famille, il dit « Qui est ma famille ?» et il les envoie au loin, comme pour leur dire « Il ne suffit pas d'avoir des liens de sang pour être un bon et pour savoir aimer. » Non, aimer, c'est autre chose. Ses disciples, eh bien, il n'a de cesse de leur dire « Vous ne comprenez rien, vous êtes idiots » et de les envoyer balader. Parce que l'amour, justement, c'est cela. C'est être exigeant, c'est savoir être compatissant avec ceux qui en ont besoin, mais il faut savoir aussi être exigeant avec ceux qui peuvent faire plus. Et nous le savons bien dans nos vies, nous le savons bien, cette exigence parfois est difficile à vivre, parce que quand on est exigeant, parfois on est rejeté. Mais malgré tout, je pense que aimer, c'est pas se faire plaisir à soi-même, c'est essayer de faire grandir, croître l'autre, et c'est ce que Jésus fait. Il l'étire par le haut. Alors quand on est tout en bas, il tire doucement, il prend dans les bras même. Mais les autres, il essaye de les tirer par le haut pour leur dire « Vous êtes capable de faire encore mieux ». Et c'est ça qu'on entend aussi dans ce que peut être aimer. Aimer, c'est parfois être exigeant. Aimer, c'est pas toujours... C'est en tout cas l'altruisme en général, eh bien il faut se méfier, ce n'est pas le narcissisme. On ne s'aime pas pour se faire plaisir à nous-mêmes. Lorsqu'on est appelé à aimer, invité à aimer, eh bien parfois, ça peut nous revenir en pleine figure. Mais peu importe, du moment que l'autre, eh bien, peut grandir un peu. Alors, évidemment, vous le savez, c'est difficile et je ne vais pas vous faire des leçons. Chaque situation est différente. C'est cela qui est aussi important. Et d'ailleurs, l'évangile de Luc travaille très bien ça, puisqu'il est profondément différent, l'évangile de Luc. Ça se passe un peu avant, et puis c'est dans un dialogue où la question posée n'est pas la question du plus grand commandement, mais la question posée est « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et puis c'est pas Jésus qui va énoncer le commandement, eh bien c'est le spécialiste de la loi. Et Jésus, et tout de suite va suivre la question du prochain. Qui est mon prochain? Ça aussi c'est une bonne question. Qui est mon prochain? Parce que aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord déjà identifier qui est mon prochain. Et là, dans l'évangile de Luc, pour répondre à la question du prochain, Jésus énonce la parabole du Samaritain. Vous savez, cet homme battu, à moitié mort sur le bord du chemin, et un prêtre passe, un autre prêtre passe aussi, et personne ne vient le chercher. Et le seul qui lui tend la main, c'est le Samaritain. Eh bien, la question du prochain est assez évidente à première écoute. Le prochain à aimer, c'est le prochain à aider. Ça, c'est vrai. Mais le prochain à aimer, c'est celui aussi qui me vient en aide. Et je pense que pour savoir aimer, il faut accepter aussi d'être aidé par les autres. Aimer, ce n'est pas que donner, c'est savoir aussi recevoir, savoir se reconnaître en manque, savoir que nous ne sommes pas dans la toute-puissance, mais au contraire, que nous aussi, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de Dieu, et nous avons parfois, même souvent besoin, qu'on nous tende une main compatissante aussi. Parce que il faut savoir aussi recevoir pour donner. Si on oublie ça, on oublie à mon avis l'essentiel. Savoir recevoir. Recevoir, c'est aussi une manière eh bien, de s'apprécier soi-même. Vous savez, il y a ce « comme soi-même ». Alors je ne vais pas faire, je renvoie ça aux psychologues qui l'ont très bien travaillé. En réalité, oui, il faut savoir s'aimer soi-même. Mais pour s'aimer soi-même, à mon avis, il y a une condition importante. Il faut au moins avoir, une fois dans sa vie, fait l'expérience d'être aimé. Les gens qui n'ont jamais été aimés, eh bien, à moins d'un miracle, après tout je crois au miracle, vont avoir beaucoup de difficultés pour mettre en œuvre ce commandement. Il faut savoir s'aimer soi-même. Oh, s'aimer, c'est pas se croire le meilleur. S'aimer, c'est parfois justement être exigeant avec nous-mêmes et dire, eh bien là, eh bien, ça va pas du tout. Ce que je suis en train de faire, ça va pas. S'aimer soi-même, ça peut être ça aussi. Mais je pense que dans les évangiles, il y a un peu de tout cela. Savoir donner, savoir recevoir et savoir que nous sommes aimés. Et ce savoir aimer, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Ce savoir aimer de Dieu, ce savoir aimer des autres, c'est quelque chose, cette expérience-là, qui nous fait croître, qui nous fait grandir, qui nous relève. Et j'en viendrai à la fin, à ma conclusion, sur le fait d'être relevé. Être relevé, c'est tout simplement être ressuscité, en quelque sorte. Et c'est ce que nous disent les quatre évangiles. Et là, je vais rajouter Jean. C'est ce que nous disent les quatre évangiles, parce que cette phrase, ce commandement d'amour, intervient chez Matthieu et chez Marc, juste après une discussion sur la résurrection. Chez Luc, elle répond à « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ce commandement d'amour est profondément en lien avec la résurrection. Il est en lien avec la résurrection, parce que aimer, justement, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. Vous le savez, cet amour ne disparaîtra jamais, comme nous dit l'apôtre Paul. Cet amour nous fait grandir, il nous relève, il nous fait croître, à la fois l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Et chez Jean, il va y avoir ce commandement qui veut dire un peu autre chose, ce commandement de l'amour réciproque, puisque Jean dit « tu aimeras, eh bien, et aimez-vous, non, oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples. » Jean leur dit bien, et il le dit aussi dans le contexte de la Passion, lors du dernier repas, alors qu'il vient de se dépouiller, de se mettre à genoux, de laver les pieds de ses disciples. C'est alors que Jésus énonce ce commandement d'amour. Ce commandement d'amour, il est là aussi pour faire le lien, le passage. Il prépare, eh bien, il prépare l'absence de Jésus. Il leur dit, si vous vous aimez, en clair, je suis toujours là, au milieu de vous. L'amour réciproque, déjà entre nous, dans l'Église, mais aussi ouvert aux autres, l'amour du prochain vient bien au-delà, eh bien, cet amour fait que nous pouvons vivre, et nous pouvons vivre éternellement. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui nous transforme, qui nous transcende, qui nous relève. L'amour, c'est la résurrection, déjà, ici et là, aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tout à fait entendre et essayer de mettre en pratique. Cet amour que Dieu nous offre, que Dieu nous a offert dans la personne du Christ, cet amour qui ne disparaît jamais, cet amour qui nous fait vivre, revivre, qui nous met debout, qui nous réveille et qui fait que nous sommes appelés tous et toutes à la résurrection. Amen.